Les études de genre font débat. Certains y voient une remise en cause des repères, d'autres un outil utile pour penser les inégalités. Aux États-Unis, des recherches ont été freinées, voire arrêtées sous l'administration Trump. En France, des polémiques régulières alimentent la méfiance, même dans les sphères ministérielles. Alors derrière ces tensions, des questions persistent. Pourquoi interroger le genre? Pourquoi suscite-t-il autant de réactions? Et qu'est-ce que cela révèle de la place que l'on accorde ou non à ce type de savoir? Pour en discuter, pour en débattre même ce soir, deux invités. Sylviane Agazinski, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, vous avez enseigné au lycée Carnot à Paris et à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez été élu en 2023 à l'Académie française. Vous avez très longtemps travaillé sur les inégalités de sexe en politique et dans la société. Vous avez publié notamment en 2012 cet ouvrage intitulé « Femmes entre sexe et genre ». C'était aux éditions du Seuil. Face à vous, Éric Fassin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, professeur à l'université Paris 8, dite Vincennes-Saint-Denis. Vous êtes enseignant au département de sciences politiques, chercheur au laboratoire Sophia Paul. Vous avez publié un que sais-je le 7 mai dernier aux presses universitaires de France intitulé Les études de genre, et vous ressortez une deuxième édition de cet ouvrage qui s'est écoulé très rapidement, je parle de la première édition, intitulé Misère de l'anti-intellectualisme, du procès en wokisme au chantage à l'antisémitisme. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Nous sommes prêts à mener des opérations de grande envergure pour stopper l'intrusion du gender à l'école.
Après avoir ferraillé contre le mariage homosexuel, le collectif La Manif pour tous revient à la charge. Il demande le retrait du programme Les ABCD de l'égalité qui, selon ses manifestants, favoriserait l'indifférenciation entre les sexes et la théorie du genre.
Ce qu'elle essaye de nous expliquer, Judith Butler, c'est qu'il y aurait deux types de genres. Il y a un genre qui est biologique, on est mâle ou femelle, mais il y a un genre qui est sociologique, on est homme ou femme.
La question du genre, pardonnez-moi, dans l'humanité d'une manière générale, quand on est une fille, c'est qu'on sera une femme, et quand on est un garçon, c'est qu'on sera un
qu'est-ce
homme.
Que l'idéologie du genre à l'école, ça signifie propager l'idée aux enfants qu'ils peuvent changer d'identité sexuelle. C'est-à-dire qu'on est garçon, mais on peut devenir fille, et on est fille, on peut devenir garçon.
Au fond, les repères viscéraux auxquels nous sommes attachés en termes d'anthropologie, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme, de quoi a besoin un enfant, ces repères deviennent menacés.
Alors commençons tout simplement par le début, les études de genre. Qu'est-ce que ce champ de recherche, Éric Fassin, qui est à la fois attaqué, étrié, parfois méprisé, même par une partie du milieu universitaire?
Alors effectivement, c'est, comme vous l'avez dit, un champ d'études. Autrement dit, il y a d'une part des disciplines différentes qui sont mobilisées. Ça va des sciences sociales à la philosophie, mais aussi à la biologie ou à toutes sortes de disciplines. Et en même temps, il n'y a pas une théorie du genre, comme on nous le dit souvent. Il y a, parce que c'est un champ d'études, des théories qui peuvent s'opposer. Pour le dire simplement, Judith Butler, c'est pas la même chose que Catherine MacKinnon. Catherine MacKinnon, la juriste qui parle de la domination sexuelle, c'est pas du tout la même perspective que Judith Butler. Et c'est encore autre chose que ce que nous raconte, par exemple, Christine Delphi en France. On peut donc multiplier les théories du genre. Qu'est-ce qui unifie quand même ce champ d'études? C'est premièrement un concept, le concept de genre. Du moins, un concept qui a été approprié par le féminisme à partir des années 70, sans avoir été inventé par les féministes, et qui s'est transformé depuis. Et puis aussi, c'est le fait que c'est un champ d'études qui est né de mouvements sociaux, et en particulier du féminisme, mais aussi des mouvements sociaux liés aux minorités sexuelles en général. Donc, c'est un domaine où on est amené à réfléchir au rapport entre le savoir et la politique.
On reviendra sur ces liens qui posent question parfois entre militantisme et science. Comment le champ militant peut permettre l'émergence justement d'une science, d'un champ de recherche en particulier. Mais avant ça, Sylviane Agazinski, on entendait tout à l'heure dans le son une personne qui disait « la théorie du genre, c'est une idéologie ». Est-ce qu'il y a lieu de penser cela? Dans le fond, ce serait une idéologie monolithique, la théorie du genre. Est-ce que vous êtes d'accord avec
non,
ça?
Non. C'est une caricature, c'est une simplification. Et là, je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment sur ce point. Il y a plusieurs théories, c'est-à-dire il y a aussi plusieurs usages du mot genre. en tant que, dans une perspective philosophique, ça pose d'ailleurs un problème, cette polysémie extrême du mot genre. Bah, la première idée qui me vient à l'esprit quand on dit genre, c'est le genre humain, c'est le genre grammatical, donc masculin-féminin, mais c'est quand même très particulier. Et puis au fond, les deux sexes, c'est aussi deux genres, c'est-à-dire que genre, ça veut vraiment dire catégorie. Donc, les études dites de genre sont des études de catégories, souvent de catégories sociales distinctes, minorités ou pas, plutôt minorités en général, peut-être aussi catégories qui se sentent exclues. Mais avant, et c'est pour ça que j'ai utilisé aussi le mot genre, en parlant de femmes, entre femmes au pluriel, entre sexe et genre, c'est vous l'avez rappelé, le sens de sexe social qui a été utilisé par Anoclet dans les années 70, en effet, où le genre signifiait le sexe social. Et ça, c'était extrêmement important pour les philosophes, les sociologues et les féministes, bien sûr. Ça voulait dire que quand on parle, par exemple, des femmes, puisque c'est la, mais on pourrait dire la même chose, bien entendu, des hommes. Quand on parle des femmes, on parle toujours, à mon avis, simultanément, des femmes telles qu'elles sont dans telle ou telle société, dans telle ou telle culture, c'est-à-dire que, en tant que sexe, puisque moi j'utilise beaucoup ce terme, peut-être trop d'ailleurs, mais enfin, bon, en tant que sexe, elles sont toujours socialisées, de même que le masculin est toujours déjà socialisé. Il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas d'individu abstrait, comme on nous a dit à un moment donné, au moment de la parité, le citoyen est abstrait, non. Donc, les femmes et les hommes sont toujours déjà socialisés. Il y a des différences culturelles, des différences dans l'institution, d'où la hiérarchie des siècles, la hiérarchie, bien sûr, homme-femme. Mais cela ne veut pas dire, à mon sens, on y reviendra tout à l'heure, que la notion de sexe et la notion qui implique cette dualité sexuelle soient réductibles à la dimension sociale, parce que les sociétés ne sont pas faites sur rien du tout. Elles sont faites sur la substance humaine qui est moi, je remonte à Aristote jusqu'à la logique du vivant de François Jacob, les sociétés sont faites d'êtres vivants. Et la mort, la vie, la sexualité, au sens de sexuation et sexualité, ça concerne des êtres vivants. Donc pour moi, il faut toujours penser en même temps, non pas une opposition, mais comment ça s'articule entre la logique du vivant et les logiques sociales, symboliques, etc.
La question que vous posez en creux, Sylviana Gazinski, justement, plongeons dans ce débat, c'est est-ce que ces études de genre nient ou nieraient même l'existence de la biologie, l'importance de la biologie en tant qu'être humain, dans ce que nous sommes même en tant qu'être humain, Éric Fassin ?
C'est un reproche qui est souvent fait d'un point de vue conservateur, en disant, par exemple, avec la Manif pour tous, pas d'ovules dans les testicules. Mmh. Autrement dit, le genre, ce serait la confusion biologique. Il est donc important de voir qu'il y a des biologistes qui utilisent le concept de genre. Autrement dit, ce qui est critiqué, ça n'est pas la biologie, comme un fait, mais c'est le biologisme. C'est-à-dire que c'est l'idée que nous serions tout entiers composés par cette définition. Quand on prend, par exemple, le travail de Anne Fausto-Sterling, ce qu'elle raconte, c'est une biologiste féministe qui utilise le concept de genre, c'est que nous choisissons, avec la discipline biologique, d'ordinaire, de dire qu'il y a deux sexes. Oui, mais il y a pas mal de gens qui n'entrent pas dans ces deux catégories. Qu'est-ce qu'on en fait ? On dit ce sont des anormaux. Et donc, on va avoir des personnes qu'on a longtemps appelées hermaphrodites et qu'on appelle aujourd'hui intersexes. Oui, mais après tout, on n'est pas obligé de catégoriser comme ça. Et donc, elle dit, et si on disait qu'il y a cinq sexes ?
Je vous coupe, parce qu'on va justement l'écouter, expliquer et déplier ce raisonnement.
La question de la dualité des sexes exige un examen plus approfondi et plus attentif, notamment une remise en question sur le plan scientifique. J'insiste ainsi sur un aspect bien particulier, à savoir qu'il y a une variété bien plus grande que le simple sexe mâle et femelle, féminin, masculin, dans la population humaine. En fait, sur le plan biologique, On peut penser au sexe à différents niveaux. Il y a le sexe chromosomal, le XX ou XY. Il y a également le sexe lié aux hormones présentes lors du développement du fœtus. Il y a aussi toute la formation des organes génitaux. Il y a ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps, de nos organes génitaux, les gonades, et puis tout le développement humain à travers la puberté jusqu'à l'âge adulte. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre, comment le monde médical aborde cette absence de clarté ou de choses très bien définies, mâle, femelle. Non, il y a plus.
On a là une biologiste, Eric Fassin, je redis son nom, Anna Fausto-Sterling, biologiste américaine, qui utilise la théorie du genre justement pour déconstruire l'idée même de notre rapport à la biologie, non pas les données biologiques, les données qui composent la nature, mais la façon dont nous les pensons, le prisme que nous employons pour lire ce rapport à la nature.
Il y a deux sens du mot « biologie » qui coexistent et qui se confondent parfois. Il y a la discipline, la biologie. Et puis, il y a les faits ou les données biologiques. Et qu'est-ce qu'elle fait, la discipline biologique ? C'est qu'elle propose des manières d'organiser le réel. Mais ça ne veut pas dire que c'est le réel, c'est une manière de raconter les choses, de les décrire, de les catégoriser, de les organiser. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant parce que ça nous rappelle que ça n'est pas la réalité qui nous impose la manière dont nous la regardons. Donc de ce point de vue-là, je crois que c'est quelque chose qui d'ailleurs a suscité beaucoup d'inquiétude du côté du Vatican, parce que on s'est dit, mais alors, ça veut dire que les choses ne sont pas définies une fois pour toutes. Et c'est là qu'on rejoint des questions politiques. Parce que, en fait, la manière dont nous définissons les choses dépend aussi des questions que nous nous posons. C'est-à-dire, qui est-ce que ça exclut quand j'organise la description du monde d'une certaine manière ? Alors, on peut se dire, statistiquement, qu'il n'y a pas tant que ça de personnes qui seraient intersexuées. C'est vrai, même s'il y en a plus qu'on ne le croit. Mais aussi, ça produit autre chose, c'est-à-dire, c'est une manière de produire un ordre. Parce que catégoriser, c'est-à-dire organiser le monde selon des catégories, c'est pas simplement décrire de manière neutre, c'est toujours déjà organiser des hiérarchies. Et c'est une des raisons pour lesquelles le féminisme s'est, depuis toujours, méfié de ces impositions de catégories. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de féministes aujourd'hui s'appuient sur les études de genre pour ne pas se laisser dicter leur place dans le monde.
Sylviane Agazinsi, qu'est-ce que vous pensez de cette lecture de la biologie ? On a longtemps parlé de la dichotomie nature-culture. On réalise qu'elle perd un peu de sa pertinence, du moins quand on reste immergé, là encore, dans ces études de genre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche ?
Non, je pense qu'il y a des sciences de la nature, des sciences du vivant, et je reviendrai à la logique du vivant, selon François Jacob. Ce que nous avons entendu là, à l'instant, c'est un réductionnisme, en fait. C'est un biologisme réductionnisme.
Mais dans quel sens ?
Ben, au sens où on va parler, même si c'est très important médicalement parlant, on va parler des cellules, des chromosomes, des ovocytes et des spermatozoïdes, etc. On va parler aussi, bien sûr, des hormones. Tout ça est crucial, mais la différence des sexes, je me souviens d'une disciple de Butler ou de Butler qui disait, mais au fond, comment a été établie la différence des sexes? Et malheureusement, parmi des gens qui font des études de genre, il y a une espèce de suspicion, justement, on va réduire le sexe à un ensemble de cellules de ceci ou de cela, mais c'est pas du tout la définition du sexe. La définition du sexe, qu'il ne faut d'ailleurs pas dire au masculin, mais uniquement au féminin, ne tient qu'à une seule chose, là c'était mon accord avec Françoise Héritier, la définition du sexe se donne par la fécondité, par la reproduction, c'est-à-dire qu'on appelle sexe l'un et l'autre des types d'individus qui sont féconds entre eux. C'est une définition universelle qui traverse toutes les sociétés. On n'a pas besoin des sciences. Et quand Aristote disait le mâle, en pensant évidemment, parce que c'était l'inventeur de la biologie au sens très large du terme, en insérant d'une certaine façon l'anthropos dans l'ensemble des vivants, il disait le mâle engendre en dehors de lui la femme enfante en elle-même. Certes, il faisait une hiérarchie terrible entre les deux, bon, on est bien d'accord. N'empêche que la distinction, elle est simple. On n'a pas attendu de connaître l'existence de telle ou telle cellule pour savoir. Lévi-Strauss disait, mais toutes les sociétés, y compris les plus archaïques, avaient très bien compris ce qui se passait entre un mâle et une femelle quand un enfant naissait. Donc moi, j'en reste un peu à cette définition-là, ce qui n'empêche pas d'éclairer ce double statut mâle-femelle, mais je pense que parmi les humains, on reconnaît au fond un homme d'une femme dans le sens biologique du terme ou naturel, ce qui n'exclut pas sa socialisation et ce qu'on en fait à travers la fécondité et la reproduction. Et ça me paraît totalement incontournable. Et je pense que les enfants qui naissent intersexués, on ne dit plus, personne ne dit depuis longtemps qu'ils sont anormaux. Il n'empêche que ce sont des exceptions. Et à ma connaissance, beaucoup d'exceptions confirment la règle et ça n'enlève rien au caractère totalement humain d'une personne qui naît de cette façon, de même qu'est humain toute personne qui naît avec telle ou telle chose, au fond, qui n'est pas biologiquement ordinaire et habituelle dans l'espèce.
Le fait de donner la vie, Éric Fassin, c'est un argument qui revient là aussi très souvent pour contrer les études de genre, la matérialité de la grossesse, l'expérience même d'être une femme lorsqu'on donne la vie, cette matérialité souvent décrite comme biologique. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
Je pense que nous avons collectivement sans doute envie de nous raccrocher à une définition intemporelle, c'est-à-dire qui vaudrait toujours et partout. Or, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que manifestement, on parle de transformation sociale. On n'est plus dans le même monde que celui dans lequel nous sommes nés. Et ça se traduit par exemple autour de la catégorie de sexe. On fait comme si le sexe c'était la biologie et le genre c'était la culture. Oui, mais le sexe c'est d'abord l'état civil. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est qu'il existe la possibilité de changer de sexe selon certaines conditions qui sont variables selon les pays et selon les époques. Ça veut bien dire que le sexe, en fait, ça n'est pas juste une donnée biologique, c'est un fait politique. Qu'est-ce que vient de faire aujourd'hui Donald Trump ? Il a un décret, le premier jour de son investiture, où il dit « l'État va restaurer le sexe biologique ». Et évidemment, ça lui pose un problème. Comment on définit le sexe biologique, puisque on vient d'entendre Anne Fausto Sterling rappeler que même pour la biologie, il y a plusieurs définitions, parce que ça dépend de est-ce qu'on va parler des hormones, des chromosomes, est-ce qu'on va parler.
Je ne veux pas vous interrompre, mais j'ai dit tout à l'heure réductionnisme biologique, parce que c'est physiologique la génération. C'est pas biologique au sens.
Non, mais donc
c'est des fonctions physiologiques.
Mais le problème pour Donald Trump, quand il dit c'est le sexe biologique, c'est qu'après il est bien obligé de dire ce que c'est. Donc il va dire c'est les gamètes. Et il dit les hommes c'est quoi ? C'est ceux qui ont des petits gamètes. Et les femmes c'est quoi ? C'est celles qui ont des gamètes de taille plus importante. On voit bien déjà que ça n'a aucun sens d'un point de vue biologique puisqu'il dit dès la conception, or au moment de la conception, il n'y a pas de différenciation des gamètes. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est un fantasme, la biologie. Ça n'est pas une réalité, là. C'est une manière de dire, on en a assez de toutes ces histoires, des personnes trans, et la transphobie joue un rôle très important dans cette histoire. Et pourquoi y a-t-il cette épidémie de transphobie ? C'est précisément parce qu'elle nous oblige à ne pas oublier que le sexe, il est défini par l'État. C'est l'État qui dit « vous pouvez changer ou pas ». Et à quelles conditions ? Par exemple, on a vu la controverse autour de l'homme enceint. Pourquoi y a-t-il eu une telle controverse ? Eh bien parce qu'on a renoncé, depuis 2016, à stériliser les gens pour les autoriser à changer de sexe. Donc à partir du moment où ils ne sont plus stérilisés, eh bien il devient possible, même en étant un homme, d'être enceint. Bien sûr que ça peut nous surprendre, que ça peut nous paraître exotique, ou etc. Mais en fait, ça veut dire que nous sommes amenés à faire des choix et à comprendre est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est la politique qui détermine le sexe ? Oui, dans une société où on peut changer de sexe, il est évident que ça n'est pas simplement les chromosomes ou les gonades ou les organes génitaux.
En résonance, la voix de l'écrivain universitaire Éric Marty, il était l'invité de l'émission Signe des temps sur France Culture.
Il y a un point que j'aurais soulevé, c'est que, au fond, ce que dit la pensée du genre, c'est évidemment, c'est une sorte d'aspiration à l'émancipation, à la gender fluidité, même au genderless. Mais on peut demander, au fond, pourquoi cette aspiration ne cacherait-elle pas un autre ordre ? Pourquoi ça serait de la pure émancipation ? Par opposition à ce qu'on appelle le binaire, pourquoi cet appel à la fluidité des genres ne serait pas elle aussi, le masque d'un ordre social qui, précisément, parlerait au travers de cette pensée-là. On pourrait dire tout à fait que, par exemple, toute la pensée du genre Butler est en parfaite harmonie avec le discours néolibéral. On pourrait y voir précisément peut-être dans ce genderless, dans cette gender fluidité, quelque chose qui relève en effet de l'idéologie, parce que la théorie n'est jamais complètement séparée de l'idéologie.
Ce que nous dit Éric Marty, Sylviane Agazinski, là aussi une fois de plus en creux, c'est que la théorie du genre est peut-être le fruit de l'individualisme de notre temps, du primat de l'individu sur le collectif, de la volonté de faire valoir qui l'on est et uniquement en tant que personne. Qu'est-ce que vous pensez là encore une fois de cette approche-là ?
Oui, je préfère cette question. On va quand même pas s'appuyer sur le discours de Trump pour parler du sexe et du genre. Franchement, c'est pas notre référence. On voit juste que
ça peut révéler certaines choses.
Non, parce qu'il est dans une sorte de répression, dans il croit que, enfin, ça n'a aucun intérêt si ce n'est de résister quand même aux coupures de crédit pour les universités.
Mais ça on a va des pas effets bien réels sur des personnes bien réelles à qui on retire leur passeport.
On va pas s'appuyer sur ce genre de discours. Vous dites assez tranquillement, on peut changer de sexe. C'est pas facile à prouver qu'on peut changer de sexe. Parce qu'en réalité, si vous dites on peut changer de sexe, ça c'est un sujet effectivement de controverse. Ça veut dire que, puisque le transsexualisme implique une transition d'un sexe à l'autre, ou d'un genre, si on veut l'appeler genre masculin-féminin, à un autre, ça veut dire qu'il y aurait un transport et une inversion complète et totale. Et cela voudrait dire qu'une femme trans, un homme qui a fait sa transition, ou un homme trans, une femme qui a fait sa transition, est exactement la même chose qu'une femme ou qu'un homme, ce qui est manifestement faux, parce que physiologiquement, c'est pas comme ça que ça marche, et on n'est pas intégralement. Si bien que, tout en respectant l'identité de ce transfert, de cette... c'était une sorte de transfert. Il faut assumer à ce moment-là des identités de genre qui sont, il y a les hommes, il y a les femmes, et puis il y a les trans masculins, les trans féminins. C'est une identité à part entière, mais qui est un peu composite.
Alors,
pour revenir à la question du sexe, il a été question tout à l'heure du regard. Mais justement, c'est pas par le regard. On voit jamais le sexe par le regard. Et c'est pour ça que je reviens toujours sur cette logique de l'engendrement et de la génération qui fait le sexe, et rien d'autre ne le fait. Alors, quant au genre, j'ajouterais une chose. C'est que si on prend les trois catégories, ou les trois genres, par exemple LGB, parce que trans et LGB, c'est complètement différent comme catégorie, comme concept. La transition, c'est le passage d'un sexe à l'autre ou d'un genre masculin ou féminin. On reviendra sur l'identité tout de suite après. Mais si vous prenez, LGB, ça veut dire lesbienne, gay,
bisexuel.
Vous voyez bien que ces catégories parfaitement légitimes, ça veut dire quelque chose de concret, sont toutes fondées sur la différence sexuelle. Le gay, être gay, c'est tout de même être un homme dont l'orientation se tourne vers les hommes. Être lesbienne, c'est tout de même une femme. On va pas dire d'un homme qu'il est lesbienne. Ou alors vraiment, ça fait exploser les catégories au-delà de mes contraintes. Bisexuel, ça veut dire aussi double orientation. Donc là, LGB, c'est des catégories intéressantes. C'est des catégories, il a fallu lutter contre les discriminations à l'égard de ces personnes. Et c'était très utile et ça s'est fait. Mais c'est différent de la catégorie trans qui pose finalement d'autres questions. En tout cas, ces trois catégories-là sont des catégories que j'appellerais érotiques ou libidinales. Elles concernent la sexualité, la libido. Alors que le transsexuel, ça concerne effectivement être soi. Puis je terminerai sur être soi parce que j'aurai pas l'occasion d'y revenir, je pense. Personne n'est soi. Ni quand on est femme, homme, on n'est pas soi. Soi, c'est un rapport à soi qui n'existe pas. C'est toujours médiatisé. Il y a des intermédiaires, c'est le regard d'autrui, c'est à quoi on s'identifie, etc. Mais on peut pas dire qu'on n'est jamais parfaitement soi. Le soi, il y a rien de plus fuyant, de plus insaisissable que le soi. Mais je ferme cette parenthèse.
On peut quand même tenter chacun de s'approcher de son soi. C'est aussi, j'allais dire, un horizon que l'on peut fixer
de sa forme de vie, de son désir, mais de soi, j'ai plus de doutes.
Éric Fassin.
En tout cas, je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui sous-estimer le fait que cette question est politique. C'est-à-dire, on ne peut pas simplement dire « oui, Trump, c'est pas important ». On ne peut pas dire « Milei, c'est pas important ». On ne peut pas dire « Orban, c'est pas important ». On ne peut pas dire « Poutine, c'est pas important », puisque tous ces gens-là, aujourd'hui, défendent l'idée que l'ordre sexuel, eh bien, ça ne doit pas bouger. Il y a les hommes, il y a les femmes, il y a le mariage hétérosexuel, etc., etc. Donc, aujourd'hui, ça compte, ça pèse, ça pèse sur des gens bien réels. Et pas simplement sur des minorités sexuelles, mais aussi sur des femmes. Parce que le masculinisme s'appuie beaucoup sur, et nourrit beaucoup, ces mouvements. On le voit aux États-Unis, par exemple. Donc je crois qu'on est obligé de prendre au sérieux. Et ça ne nous épargne pas en France. On a bien vu que Éric Zemmour s'est d'abord fait connaître par un discours masculiniste. Donc je crois que on doit prendre au sérieux cette question politique et se dire que lorsque vous me dites que c'est peut-être avec légèreté qu'on dit qu'on peut changer de sexe, mais c'est parce qu'il existe quelque chose comme l'État. C'est l'État qui dit vous pouvez ou vous ne pouvez pas, à telle condition ou à telle autre condition. Donc ça, on doit le prendre en compte.
Et la médecine si de faire comme... qui se fourvoie parfois... Dans ces,
On peut tout à fait penser ça, mais on peut être content ou pas content de ces changements et de ces évolutions, mais on est bien obligé de reconnaître qu'à la fin, c'est l'État qui décide.
Donc que ça pose beaucoup de problèmes, y compris aux personnes qui entrent dans ces processus, ça pose, on ne peut pas ignorer ces problèmes. Et puis vous dites, c'est politique. Ça... Moi, je me mets... C'est terminé ?
Non, c'est pas terminé, c'est juste que je voulais...
C'est politique, mais il y a une utilisation politique. On a connu, les féministes ont très bien connu aussi la pression politique, l'objection politique, le droit de vote attendu si longtemps, la fin de la mise sous tutelle des femmes dans la famille, etc. On connaît bien le côté politique. Mais en même temps... Il y a un mélange parfois entre l'activisme d'une certaine manière et la réflexion et le problème et les problèmes qui se posent réellement et l'activisme. Moi, s'il y a un petit groupe trans qui a essayé de m'empêcher de parler dans une université, c'était assez étrange et je trouve très fâcheux pour les mouvements et les études de genre de mélanger cette violence activiste avec la réflexion et la théorie.
Je reviens sur la question que j'ai posée tout à l'heure et que vous avez l'un et l'autre évacuée. On entendait Éric Marty dire que dans le fond, ces études de genre, c'était pratiquement, un effet de mode, mais le fruit de l'individualisme contemporain. Cette critique-là, Éric Fassin, comment est-ce que vous la contournez? Comment est-ce que vous la critiquez elle-même, d'ailleurs?
Pour moi, c'est un contresens. Que fait le féminisme en général et les études de genre dans le champ universitaire? C'est pas de dire il n'y a que des individus, c'est de dire il y a des normes. Et bien sûr, il s'agit de penser le fait que ces normes, elles sont historiques et politiques, autrement dit, elles sont susceptibles de changer. Mais ça ne veut pas dire la disparition des normes. Prenons un exemple que tout le monde a en tête, les violences sexuelles. MeToo, ça nous dit quoi? Ça nous dit que penser d'un point de vue féministe, mais aussi aborder à partir des études de genre la question des violences envers les femmes en particulier, des violences sexistes et sexuelles, ça nous amène à espérer changer les normes. Mais ça ne veut pas dire la disparition des normes. Moi, j'utilise le concept de démocratie sexuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au fond, au lieu de considérer que l'ordre des choses, et l'ordre sexuel en particulier, est donné une fois pour toutes, par Dieu, par la nature, par la tradition, on se dit, non, c'est à nous de définir et donc potentiellement de redéfinir le monde. C'est ce qui est en train de se passer, par exemple pour les violences sexistes et sexuelles, mais on le voit aussi pour la question de la sexualité des enfants. Qu'est-ce qui a changé? C'est pas le fait qu'avant il y avait des normes et que maintenant il n'y en a plus et qu'on serait aujourd'hui dans un individualisme effréné, au contraire. Il y a une prise de conscience qu'il y a des normes démocratiques, c'est-à-dire de respecter la liberté, c'est-à-dire la capacité de consentir, et l'égalité dans la mesure du possible, c'est-à-dire d'essayer de déjouer la domination.
Mais si je puis me permettre, Éric Fassin, il me semble que la disparition totale des normes, ça n'existe pas. Une société
est continuellement faite de normes. Pas une norme.
Ce que des gens peuvent reprocher à la théorie du genre, ou ce qui peut les effrayer selon les points de vue, c'est que les normes du masculin et du féminin disparaissent, et celles-ci en particulier, j'allais dire, qui sont attachées pour ces gens-là.
Mais
et je vous laisserai réagir, Stéphane Le Guen.
Vous me dites à la fois que les normes ne disparaissent pas, mais que les normes du masculin et du féminin disparaîtraient. Moi, j'ai l'impression qu'il
y a... Non, je dis une société sans normes, sans normes absolues, ça n'existe pas. Certaines normes peuvent disparaître.
Ben non, non, je pense que simplement, elles peuvent se modifier. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que le fait qu'on renégocie l'ordre sexuel, ça amène à se poser des questions. Comment vivre en tant que femme? Comment vivre en tant qu'homme? Et en particulier, comment vivre dans les relations entre les sexes? Donc ça, ça n'est pas du tout renoncer aux normes, c'est renégocier les normes, les repenser, imaginer d'autres normes. C'est-à-dire que ce qui paraissait normal hier, eh bien, aujourd'hui, non seulement ça nous paraît normé, mais à certains égards, ça nous paraît anormal. C'est-à-dire des abus de pouvoir sur lesquels tout le monde fermait les yeux. Aujourd'hui, on a plus de mal, et je m'en réjouis, à fermer les yeux. C'est pas la fin des normes. C'est simplement que les normes, elles bougent.
Mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. La norme, la vraie norme sur laquelle on peut tomber d'accord, c'est la violence. Et c'est faire reculer la violence. Mais simplement, quand on prend l'exemple de la violence, les violences faites aux femmes, les violences conjugales, et en particulier le viol, mais pourquoi les femmes se laisseraient violer? Pourquoi les femmes se laisseraient-elles violenter? Si elles étaient aussi fortes toujours que les hommes, ce serait incompréhensible. En réalité, la différence des sexes, elle joue là, dans le masculinisme, pourquoi pas, dans une espèce de virilité perverse qui n'est pas la belle virilité, qui est savoir se retenir et savoir se tenir. Mais si les femmes souffrent de violences sexuelles, c'est parce que cette différence de force physique reste encore, pour l'instant, une asymétrie. Sinon, les femmes ne se laisseraient pas battre. Donc, ces exemples même de violence montrent qu'il y a là déjà une asymétrie.
Éric Fassin, comment est-ce que vous expliquez, d'ailleurs au-delà des débats que nous avons présentement dans ce studio, comment est-ce que vous expliquez que la théorie du genre cristallise tant de polémiques, notamment dans le camp conservateur, que les études de genre soient devenues, j'allais dire, une forme de champ entier à abattre aujourd'hui?
Bah écoutez, d'abord, ça touche à notre intimité. Et mobiliser l'intimité, les peurs sur l'intimité et sur les changements de l'ordre amoureux, de l'ordre sexuel, eh bien, c'est politiquement efficace. Parce que ça joue sur les fantasmes de tout le monde. Ça, c'est une première chose. Mais je crois qu'il y a aussi autre chose. Parce que quand on parle de genre, on tend à privilégier une partie de la définition, c'est-à-dire la manière d'organiser les rapports entre les sexes. Ou du moins tels qu'ils sont perçus. Mais il y a une deuxième partie de la définition telle qu'elle est donnée par l'historienne féministe états-unienne Joan Scott, qui est de dire c'est une manière de signifier les rapports de pouvoir, une manière privilégiée de signifier les rapports de pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne parle pas seulement des hommes et des femmes. Ça ne parle pas seulement d'hétérosexualité, d'homosexualité, etc. Ça parle, en fait, de beaucoup d'autres choses. Pour prendre un exemple très simple, lorsqu'on parle aujourd'hui du voile islamique, on est en train de parler de genre, puisque ce sont des femmes qui le portent. Et on va parler de la question de la liberté des femmes, etc. Oui, mais en même temps, on ne parle pas seulement de ça. On est en train de parler de l'immigration, on est en train de parler de laïcité, on est en train de parler d'islam, on est en train de parler d'identité nationale, etc. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire que la plus grande partie des études de genre aujourd'hui n'est pas consacrée à la question de savoir, mais au fond, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, mais plutôt, en fait, ce langage... Eh bien, pourquoi Trump, il parle de tout ça? Parce que ça devient un langage politique pour mobiliser des troupes, qui ne sont pas seulement des hommes et des femmes, mais qui vont pouvoir jouer aussi sur des questions raciales, sur des questions économiques, etc., etc. Donc, je crois qu'on a intérêt à ne pas oublier qu'il ne s'agit pas simplement de quelque chose qui serait finalement éternel, les hommes et les femmes, mais que c'est un langage qui permet de renouveler constamment, eh bien, un discours politique. Si on voit que, par exemple, au XIXe siècle, c'est John Scott qui le souligne, eh bien, il y a la bourgeoisie qui va s'inquiéter des mœurs sexuelles des classes populaires, de la classe ouvrière. Mais à l'inverse, si cette classe ouvrière a tendance à regarder ses bourgeois comme un peu efféminés, etc., ben ça veut dire que c'est un langage pour appréhender l'autre. Ou bien si on prend un exemple que j'ai toujours trouvé très frappant, en 2003, lorsque l'Europe ne suit pas les États-Unis dans la guerre en Irak, lorsque Robert Kagan dit « Ah oui, mais les Américains sont de Mars et les Européens sont de Vénus », qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Les Américains sont aux Européens ». Ce que les hommes sont aux femmes, autrement dit, c'est un langage de genre pour dire une hiérarchie.
Sylviane Agazinski, sur cette instrumentalisation, on le voit bien dans le champ de la culture, dans la fiction, sur les programmes scolaires, la théorie du genre cristallise des passions qui sont vraiment de l'ordre irrationnel.
Oui, mais il y a eu la passion, vous avez évoqué le foulard, ça tombe bien, moi j'en ai parlé dans Face à une guerre sainte, parce que j'avais lu quelque part, et certaines féministes bien intentionnées disaient que les jeunes filles auxquelles on voulait interdire de porter le voile à l'école étaient discriminées. Et justement, non.
On ne voit pas de débat sur le voile. Hein.
Non, mais quand même, c'est politique. C'est politique, mais c'est aussi féministe. Or, il n'y a pas pire mise sous tutelle des femmes que les formes archaïques, ça a été chrétien dans le temps, il n'y a pas que l'islam. Mais aujourd'hui, c'est l'islamisme de fait qui veut remettre les femmes sous tutelle. Et nous disons, notamment un certain nombre de féministes, nous voulons que les musulmanes soient égales aux hommes dans notre pays avec les mêmes lois, exactement comme les autres. On ne veut pas les discriminer en tant que musulmanes. On a compris simplement que le voile islamique était le drapeau, c'était un drapeau politique justement. C'était de la politique et de la politique contre les femmes, parce que quel autre politique est pire pour les femmes aujourd'hui que celle-là.
Mais sur la théorie du genre, alors comme oriflamme politique dans beaucoup de camps, notamment le camp conservateur, comment est-ce que vous le justifiez, comment est-ce que vous l'expliquez plutôt?
Moi, je me situe pas, moi, par rapport au conservateur ou progressisme. J'ai trop vu les excès. D'une certaine manière, le progressisme, ça peut vouloir dire beaucoup de choses extrêmement, extrêmement dangereuses, comme notamment le progressisme biotechnologique qui a fait que, ben, par exemple, c'était l'un de nos sujets anciens de discussion, le progrès scientifique, le progrès médical est l'un des plus convaincants qui soit. Mais quand vous avez la possibilité, par exemple, pour revenir à la procréation, de prélever des ovocytes, de prélever des spermatozoïdes et de transférer l'embryon, conquête technologique, dans le corps d'une autre femme, et que vous disent tout ça, on peut le fabriquer sur commande et l'acheter, ben vous êtes dans un danger considérable du progrès scientifique, entre guillemets, et ce qu'elle fait au corps des femmes, mais aussi au corps des hommes, quand on voit les trafics d'organes qui ont lieu dans certains pays, par exemple. Donc la technologie, c'est le progrès, mais c'est pas le seul progrès. Mais moi, je me sens pas spécialement conservatrice, sauf qu'il y a peut-être parfois quelques petites choses qui méritent d'être conservées, mais ça, c'est...
On est assez loin, Éric Fassin, du champ de recherche de l'étude de genre, là.
Oui et non, ce qu'on voit bien, et vous l'avez rappelé, c'est que les féministes ne parlent pas d'une seule voix. Autrement dit, c'est une question politique. Toutes ces questions sont politiques. Les féministes s'affrontent précisément parce que ce sont des enjeux démocratiques et que tout le monde n'a pas la même conception de la liberté. Tout le monde n'a pas la même conception de l'égalité. Donc ces batailles politiques, elles sont très importantes et ça nous évite de tomber dans une illusion qui naturaliserait ce qui est en fait un enjeu politique.
Merci à tous les deux de ce débat, de cette discussion. Sylviane Agazinski, philosophe, et Éric Fassin, sociologue. Merci d'être venu ce soir dans Questions du soir.
Merci à vous.
Merci.
France Culture propose une nouvelle collection de podcasts, Les Aventuriers de l'archéologie. Des découvertes racontées sous forme d'enquêtes par les archéologues qui les ont faites. Un paléopolar.
La première découverte de restes humains vraiment significatifs, elle a lieu en 2007.
Les Aventuriers de l'archéologie, l'énigme d'Ilroud, un si vieux sapiens, par Jean-Jacques Hublin, réalisation Assia Weber, une nouvelle collection de 4 épisodes à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France. La Voix des Invisibles propose un regard original sur l'histoire populaire de la France. Des portraits de femmes et d'hommes du peuple qui n'ont pas laissé de traces, mais aussi de celles et ceux dont la voix a été ignorée ou déformée.
Comment les individus qui ne peuvent pas s'exprimer en public parviennent-ils malgré tout à faire entendre leur voix ?
La Voix des Invisibles, par l'historien Gérard Noiriel, réalisation Charlotte Roux, une collection à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Merci d'être à l'écoute de France Culture, il est 19h. Le journal, Aurélie Kiefer, bonsoir.
Bonsoir. Le Sénat rejette l'instauration de la taxe Zucman. Ce mécanisme proposé par l'économiste Gabriel Zucman entendait faire en sorte que tous les contribuables dont les patrimoines dépassent les 100 millions d'euros payent bien au moins 2% de leur fortune en impôts. On retrouve Laurence Méry dans Direct du Sénat. Bonsoir Laurence.
Bonsoir.
Sans surprise, cet impôt plancher sur le patrimoine des ultra-riches a été assez largement rejeté au Sénat.
Exactement, 188 sénateurs ont voté contre, les Républicains, les centristes et les indépendants, quand seuls 129 ont voté pour. L'ensemble de la gauche, bien sûr, soutenu par quelques centristes. Vous l'avez dit Aurélie, pas de surprise ici ce soir, le rejet était annoncé, adopté par l'Assemblée nationale en février. Le Sénat, à majorité à droite, était farouchement opposé à cet impôt sur le patrimoine des ultra-riches. Alors, que se passe-t-il désormais? Est-ce la fin de la taxe Zucman? La réponse est non, certainement pas, parce que les écologistes, le Parti socialiste ou encore la France insoumise veulent l'avoir adoptée et appliquée. Les partis de gauche ont donc deux solutions. Relancer l'examen du texte dans le cadre d'une de leurs niches, une journée consacrée aux textes qui leur sont chers, ou présenter un amendement lors d'un débat sur le budget. Le gouvernement, lui, travaille sur un projet beaucoup plus limité, un impôt à 0,5% au lieu de 2% pour la taxe Zucman, insuffisant pour la gauche qui espère